Cap et Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec un spécialiste de la diététique. Il va tout nous dire sur ce que nous devons manger ou pas pour vivre en forme, peut-être aussi pour vivre plus vieux. Nous allons le voir. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bonjour Jean-Philippe Carrasco.
Bonjour, bonjour à tous.
Et avec moi, Lydia Dantas et Mathis Desbril, nos journalistes stagiaires de l'Institut supérieur de journalistes de Toulouse, ISJT, qui nous accompagnent dans un certain nombre d'émissions. Alors, Jean-Philippe Carrasco, j'ai dit que vous étiez diététicien. On va commencer par une définition. C'est quoi un diététicien et quelle est la différence avec un nutritionniste ?
Ben alors, le diététicien, c'est le seul diplôme reconnu médical. Qui est professionnel de santé et professionnel de l'alimentation. Nutritionniste, c'est pas un diplôme, ça n'existe pas. Voilà. Donc des gens se targuent du terme nutritionniste. Certains médecins se collent une étiquette de nutritionniste, mais c'est pas un diplôme.
Mais alors on le voit souvent chez le médecin plutôt que qu'ailleurs.
Mais enfin bon, c'est alors je pense qu'il y a des médecins qui se battent pour que ça devienne une spécialité. Mais c'est pas un diplôme, c'est pas reconnu. Donc il y en a qui se collent une étiquette de nutritionniste, sûrement pour se déconventionner ou pour faire d'autres prestations. Mais le vrai diplôme du professionnel de l'alimentation est reconnu comme une profession médicale, c'est le diététicien.
Et c'est celui que vous avez, et vous êtes là aujourd'hui avec nous.
Alors,
comment vous avez choisi cette voie qui est quand même assez particulière?
Alors moi j'ai choisi ça suite à une prépa médecine, comme beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire deux premières années de médecine. Je voulais un métier dans le libéral, je concevais pas déjà à l'époque le fait d'être salarié, et je voulais être dans le soin, je voulais avoir un cabinet, je voulais aider les gens. Et j'ai commencé la boxe aux alentours des 18 ans. Et c'est un milieu sportif où il y avait des catégories de poids, où il y a toujours des catégories de poids. Et donc je voyais un peu les gars faire n'importe quoi pour être au poids. Moi j'étais boxeur poids lourd, donc c'était pas mon problème, mais ça m'a mis un peu la puce à l'oreille sur la gestion du poids, des régimes et ainsi de suite. Donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la diététique et ce qu'il fallait faire en tant que sportif pour maintenir un poids de forme et notamment rester dans une catégorie. Et ça s'est fait tout naturellement à la suite de mes deux premières années de médecine que bien sûr j'ai pas validé. Je suis rentré dans l'école de diététique de Toulouse et ça s'est révélé être une véritable passion. Voilà.
Et aujourd'hui, donc vous exercez alors en libéral, on l'a compris.
Oui.
On va dire où est votre cabinet, il n'y a pas de raison.
Oui, à Aucamville.
À Aucamville, donc mais en plus vous avez un site sur lequel nous sommes allés nous pencher pour préparer l'émission qui est extrêmement clair. Donc on sait tout sur vous à travers ce site, en tout cas il donne envie d'aller vous consulter.
C'est le but.
Et justement, si on vient vous consulter, c'est payant.
Oui.
Tout est toujours payant.
Je suis pas encore philanthrope.
Voilà, donc ce sont des consultations, ce sont des honoraires libres que vous pratiquez, donc vous pratiquez ce que vous voulez.
Oui. Alors après, on se fixe...
Au poids du client, non, c'est pas en fonction du poids.
Heureusement pour certains patients, et puis c'est pas des clients, c'est des patients, mais après on pratique des tarifs de profession médicale libérale, on s'accorde par rapport à ce qui se fait dans le marché, mais bon, voilà.
Est-ce que c'est quelque chose qui est remboursé ?
Pas par la sécurité sociale, sauf sous certaines conditions, pour les prises en charge d'enfants obèses, par exemple, avec le réseau REPOP, avec l'hôpital des enfants de Purpan. On peut avoir des consultations ou un forfait pris en charge dans certaines conditions d'enfants qui répondent à des critères dans un dossier spécifique de prise en charge. Mais sinon, la diététique, en général, n'est pas remboursée. Et par contre, elle peut être remboursée par certaines mutuelles qui ont des forfaits médecine douce comme remboursement d'ostéo, tout ça, ou psy. Donc je fais beaucoup, beaucoup de factures à mes patients qui se font rembourser par leur mutuelle.
Vous avez parlé de l'hôpital des enfants, c'est une précision intéressante, parce que je crois que vous y intervenez.
J'y ai intervenu.
D'accord, dans les EHPAD aussi, les restaurations collectives.
Donc ça a toujours été, si vous voulez, un souhait de ma part de sortir de mon cabinet pour faire des vacations. Et donc, j'ai travaillé en EHPAD. En fait, j'ai toujours cherché à me former personnellement, professionnellement, et donc à approfondir des domaines que j'avais pas forcément approfondi dans mes études. Donc j'ai commencé par la géronto, que je maîtrisais pas du tout, et j'ai fait 8 ans en EHPAD.
Traduction gérontologie.
Gérontologie, donc...
Nos grands anciens.
Voilà. Puis...
C'est important d'ailleurs de voir ce qu'ils mangent.
Primordial.
C'est primordial.
Ouais, j'allais dire l'acte principal pour la lutte contre la dénutrition, notamment la dénutrition protéino-énergétique, c'est pour éviter qu'ils perdent de la masse musculaire, pour éviter qu'ils tombent, pour éviter qu'ils sombrent, pour éviter des maladies et même pour éviter certaines démences, parce que la dénutrition peut faire tomber les personnes âgées en démence. Tout passe par le repas, tout passe par la diététique, qu'il faut des fois adapter en texture parce qu'ils ont plus les dents ou parce qu'ils peuvent pas bien déglutir. Donc il y a tout un travail sur les textures, mais c'est primordial, la diététique est primordiale en gérontologie.
Ils l'acceptent quand vous leur dites, vous n'entendez pas ce que moi il m'est arrivé d'entendre dans ma famille en disant l'âge que j'ai, peu importe, je mange ce que je veux, quand je veux, où je veux.
Oui, ben on s'adapte.
Oui.
Là, on n'est pas forcément sur... Alors après, ça dépend s'il y a une problématique de diabète ou une pathologie rénale ou quelque chose qui peut nécessiter une prescription ou un régime spécifique. Mais on essaie, dans le meilleur des cas, de faire quand même une alimentation plaisir.
Ouais. Et puisqu'on parle des EHPAD, vous êtes consulté régulièrement par des EHPAD. Disons, chaque EHPAD a ses nutritionnistes. On a quand même eu vent de certains scandales dans les maisons de retraite. On ne va pas rappeler le nom de certains groupes qui ont d'ailleurs opportunément changé de nom. Mais on a bien compris qu'on faisait des économies un peu partout, mais surtout sur la restauration.
Ouais.
Et donc j'imagine que là, il n'y avait pas de diététicien.
Alors, ça dépend comment travaillent les groupes ou les EHPAD. Ils peuvent travailler avec des sociétés de restauration collective, comme Sodexo ou autres, qui, eux, ont une diète qui gère les menus, et ainsi de suite. Il y a des EHPAD comme moi, j'étais vacataire un jour par semaine, un jour et demi par semaine.
Ça, ce qui est quand même beaucoup.
Ce qui est beaucoup, mais ça me permettait de gérer les menus pour la semaine, ça me permettait de gérer tous les régimes, donc tous les cas médicaux à gérer de tous les résidents, et ça me permettait de on a créé par exemple un service de portage à domicile pour la commune parce que c'était un EHPAD municipal, et ça me permettait de gérer un peu l'équipe de cuisine pour travailler sur les commandes et optimiser au maximum. Je sais que à l'époque, parce que ça fait maintenant longtemps que je suis plus en EHPAD, mais à l'époque, moi, j'avais un budget.
Ah, ne vous inquiétez pas, vous y reviendrez. Vous avez un peu de temps encore.
Je travaille pour éviter, mais on ne sait jamais. J'avais un budget à l'époque de 4,50€ par jour pour
par
la restauration.
Jour. Ça
par
fait personne. Quand même deux repas et un petit déjeuner.
Deux repas et un petit déjeuner et les collations. Et c'était quasiment le double de ce qui se pratiquait dans les EHPAD industriels.
On arrive à manger correctement, super une journée bien. Avec 4,50€.
Ouais, super bien. Quasiment 5€ on avait de budget et on arrivait à faire des super repas. Donc, c'est pas la folie. Mais ouais, ça rogne un petit peu sur tous les budgets. Et aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours des 2€ pour la journée, donc c'est vraiment ridicule. Et quand t'as une personne âgée qui paye plus de 2 500€ par mois, va lui faire comprendre qu'il y a 150€ pour les repas. Lui, quand il paye 2 500€, il veut bien bouffer. Donc, c'est pas évident.
Oui, je pense qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Vous êtes intervenu également sur les établissements scolaires?
Alors, oui, alors sur ça, c'est sur des interventions ponctuelles ou sur demande de certains chefs d'établissement pour travailler un petit peu sur... quand ils sont sur des projets d'équilibre alimentaire ou de restauration ou autre. Mais non, moi j'ai travaillé surtout après avec l'hôpital des enfants de Purpan, qui avait détaché au lycée de Luchon, collège-lycée de Luchon, qui avait détaché une section pour les enfants en surpoids et les enfants obèses. Donc ils avaient des cours de sport supplémentaires, ils avaient des consultations psy et diète, ils avaient des cours de diététique en plus. Et donc là, je passais un jour et demi aussi par semaine.
Ça veut dire que vous leur appreniez à manger ?
Ben oui, on leur apprenait à manger, on leur apprenait ce que c'était l'équilibre alimentaire, on leur apprenait à faire des équivalences, à s'adapter à la maison quand il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut, ou à la cantine, les choix qu'il faut faire. Et voilà, c'est tout. Enfin, le sport, ça s'éduque, l'alimentation, ça s'éduque, donc c'était un super projet. Ça fait quelques années que j'ai arrêté le projet, mais je pense que c'est toujours en cours.
Salut, Jean. Vous travaillez donc essentiellement aujourd'hui à votre cabinet. Oui. Est-ce que on vient vous voir après le problème ou avant le problème ? Est-ce que vous avez une action préventive ou plutôt curative ?
Ça dépend du style de patient. Mais en général, on est dans le problème.
Oui, donc voilà. C'est a posteriori quand même.
Oui, si vous parlez de prise de poids, les gens viennent me voir pour perdre du poids, donc ils ont déjà pris le poids.
Donc, voilà. Oui, une question de Mathis.
Et c'est quoi les problèmes les plus récurrents auxquels vous faites face ?
Les problèmes les plus récurrents, ce sont les problèmes de surpoids ou d'obésité. Et très souvent, ce sont les problèmes de comportement alimentaire. Donc, c'est-à-dire un problème de gestion du stress, des angoisses, des émotions qui fait que la personne va compenser par l'alimentation.
Ça veut dire qu'avant de soigner le corps, il faut soigner la tête ?
Et bien, en fait, il faut tout soigner en même temps, si on peut. Parce que la problématique
est... Théorie des médecines asiatiques, ça.
Un petit peu, ouais. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais...
Oui, bah, vas-y.
Mais justement, j'ai une question par rapport au TCA. Oui. Comment vous pouvez...
TCA
Trouble du comportement alimentaire.
Très bien. Elle a travaillé, c'est bien.
Je connais quand même. comment vous pouvez vous adapter à des personnes qui souffrent des TCA, avec un régime justement abusif souvent, ou pas ?
C'est-à-dire un régime abusif ?
Par exemple, on sait très bien qu'il y a de la boulimie ou d'anorexie, il y a du stress, il y a des angoisses, mais comment vous adaptez à des personnes justement qui souffrent
Moi, c'est ma spécialité, le trouble du comportement alimentaire. Okay. En sortant de l'école, je me souviendrai toute ma vie de ma première consultation.
Jean-Philippe Carrasco, je vous coupe, pardon, mais qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire ? On va peut-être le définir.
D'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas une alimentation, j'allais dire, normale, entre guillemets. Ça va être une alimentation compulsive, ça va être une alimentation qui va mettre en jeu soit son pronostic vital, soit sa santé. Hein ? Donc, c'est une problématique psychique qui a une conséquence physique.
D'accord.
Voilà. Et donc, moi, en sortant, si tu veux, de l'école, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout formé sur le côté psychologique. Et donc, j'ai intégré des associations d'anorexie, boulimie.
Curieux qu'à l'école, on ne vous forme
très
pas
peu,
là-dessus. C'est quand même essentiel.
Ouais. On est des très bons techniciens. Nous sommes très techniques. On est très doués pour faire des rations, pour faire des régimes. Mais tout le côté psychologique, alors après, ce sont des études qui, c'est un BTS. À l'époque, ça se faisait en 3 ans. Mais c'est des études qui sont très, très denses et on peut pas quand même tout voir. Et donc, moi, j'ai été sensibilisé très tôt. J'ai travaillé très tôt avec des psychologues, des psychiatres. J'ai fait 8 ans en clinique psychiatrique pour travailler avec des anorexiques, des boulimiques. Voilà. Le principe pour moi, le rôle principal du diététicien dans une gestion des TCA, ça va être de rétablir des vérités sur l'alimentation. On va avoir, que ce soit en boulimie ou en anorexie, on va avoir des profils qui sont quand même très cortiqués, très intelligents, qui pensent tout connaître sur l'alimentation et qui vont se priver soit de féculents, soit de matières grasses pour perdre du poids ou pour optimiser leur poids. Donc, le premier rôle, ça va être de déterminer, de remettre en place des vérités, parce que les glucides issus des féculents, c'est la seule source d'énergie pour le muscle et le cerveau. Le gras, c'est important pour la peau, les yeux, les cheveux. Voilà, donc rétablir des vérités sur l'alimentation. Et ensuite, ça va être passer un contrat avec la personne pour essayer petit à petit de réintégrer une alimentation normale. Et donc là, on va y aller étape par étape, biscotte par biscotte, quartier de pomme par quartier de pomme, pour que la personne puisse se nourrir, j'allais dire, jusqu'à se nourrir normalement. Mais il faut absolument une prise en charge psychologique en parallèle, et voire plus, parce que c'est comme pour l'obésité, c'est une prise en charge qui doit être pluridisciplinaire.
Mathis ?
Et dans ce travail-là, il y a un travail conjoint avec le psychiatre et avec le médecin qui fait le suivi psychologique ?
Ouais, en général, on travaille en collaboration avec le médecin généraliste et avec le psychiatre ou la psychologue qui s'occupe des troubles. Ça peut être aussi avec les services d'une clinique ou d'un hôpital qui prend en charge le patient parce qu'il peut être interné ou pas si son pronostic vital est trop engagé. On a une prise en charge pluridisciplinaire et donc on est au minimum trois intervenants sur ce genre de pathologie.
Vous nous avez dit que l'essentiel de vos clients venaient vous voir pour du surpoids.
Oui.
Et ce surpoids, il est provoqué par quoi globalement? Mauvaise hygiène alimentaire, une malbouffe comme l'on dit?
Oui, malbouffe et sédentarité.
Et alors c'est plutôt, ce sont des jeunes, ce sont des vieux, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Est-ce qu'on peut établir une catégorie de
alors,
clients?
Alors, il y a aussi bien des jeunes que des vieux. C'est pas trop un problème d'âge. Par contre, moi, à mon cabinet, j'ai à peu près 70 à 80% de femmes qui me consultent. Et depuis toujours, hein, ça fait 20 ans que je suis installé, c'est ça, la stat, c'est la même depuis 20 ans. Ça veut pas dire qu'il y a moins d'hommes en surpoids, ça veut dire qu'il y a moins d'hommes qui consultent.
Oui, ça veut dire qu'il y en a moins qui s'intéressent à leur corps.
Ouais, en général, ils viennent quand...
Ils viennent quand avant l'été, là, elles viennent vous voir avant l'été ou...
Alors moi, je suis plein tout le temps, donc c'est pas... Mais ça peut être un peu saisonnier, hein, malgré tout, mais non, moi, c'est pas une histoire de saison. Mais oui, on a... Enfin, il n'y a pas énormément d'hommes qui viennent en prévention ou parce qu'il n'est pas bien. Il vient si la prise de sang n'est pas bonne, s'il se fait engueuler par son médecin ou par sa femme. Bon, voilà. C'est un autre profil, alors que les femmes vont vouloir travailler sur elles sans qu'on les menace ou sans que... Voilà. Donc, il y a à peu près ce ratio-là, 80% de femmes pour 20% d'hommes. Voilà.
Alors, comment ça se passe? Ça dure combien? Quand on vient vous voir, j'imagine que... Bon, il faut analyser, il faut regarder, vous devez prescrire des régimes, vous allez nous l'expliquer comment...
Non, moi je ne prescris pas de régime, moi je travaille sur l'équilibre alimentaire. Donc on met en place une hygiène de vie, on met en place un équilibre alimentaire.
C'est quoi une hygiène de vie?
Ben, une hygiène de vie alimentaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place une ration qui correspond à ta morphologie, ta taille, ton âge, ton activité physique, tes habitudes alimentaires, ta profession, ton rythme de vie, pour qu'on colle au maximum avec quelque chose qui va être tenable sur le long terme. Qu'est-ce que c'est qui va faire qu'on va perdre du poids? C'est que on va surveiller le taux calorique, donc les quantités qu'on va consommer. Voilà. Mais le régime, par définition, c'est s'il y a une pathologie.
Et alors, on va surveiller les quantités, mais combien de fois on vient vous voir?
Ça dépend. Ça dépend.
C'est une espèce de cure, finalement. On vient tous les combien, avec quelle récurrence?
Alors, moi, je travaille avec une consultation mensuelle.
Pas plus?
Ça dépend. J'ai des patients qui viennent tous les 15 jours, j'en ai qui viennent toutes les semaines, j'en ai qui viennent toutes les 3 semaines, j'en ai qui viennent tous les 2 mois, j'en ai qui viennent tous les 3 mois.
Et qui c'est qui fixe ça, justement?
Eh bien, c'est le patient qui se le fixe, c'est-à-dire que moi, je m'adapte à mon patient. Donc, si j'ai un patient qui est un peu stressé, qui a besoin d'être rassuré, qui me dit, moi, au bout de 15 jours, je lâche, il faut que je vienne te voir plus souvent, on vient plus souvent. Si j'ai un patient qui gère et qui me dit la consultation mensuelle, elle me va. Si j'ai un patient qui me dit, voilà, moi, c'est trop tôt, j'ai pas le temps de me retourner, ça me stresse, j'ai besoin de 2 mois, on fait 2 mois. Ça dépend si c'est un patient qui veut avoir une échéance très rapide et perdre du poids en 2-3 mois, ou s'il est pas pressé et qui voit son projet sur 2-3 ans. J'en ai qui viennent me voir pour pas grossir, tout simplement. Ils s'en foutent de maigrir, mais le fait d'être dans une démarche et de venir rendre des comptes, ça leur permet de pas grossir. Donc, il y a un petit peu tous les profils, quoi.
On va revenir là-dessus, mais avant, on fait une première pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi, Jean-Philippe Carrasco.
Super.
Qu'est-ce que c'est?
Too Young to Die.
Voilà, très bien.
De Jamiroquai.
Voilà, nous l'écoutons. I know what
gotta keep your distance.
Voilà, Jeannie Recouaille, le choix de mon invité Jean-Philippe Carrasco, lieu diététicien. Donc, évidemment, au micro, on essayait d'avoir une consultation à l'œil, bien sûr. On parlait de finalement des obèses, hein, qui sont, enfin, des gens. Obèses, c'est pas bien, c'est pas un bon terme.
C'est stigmatisant,
peut-être, non?
C'est vrai que l'obésité, c'est un critère lié à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Mmh. L'indice de masse corporelle est pas révélateur de la masse grasse, puisque c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, il y a beaucoup de sportifs balèzes qui peuvent avoir un IMC d'obèse. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent se sentir contrariés ou dévalorisés par le terme.
Voilà, ouais.
Après, bon... Voilà.
C'est comme les aveugles qui sont devenus des non-voyants ou des malvoyants plutôt.
Ça,
hein, mais...
oui.
Alors, on parlait de ces régimes que vous adaptez en fonction de vos clients. On voit un certain nombre de sociétés spécialisées qui font une publicité indécente d'ailleurs à la télévision et ailleurs, qui est difficilement supportable, qui se propose de vous examiner, puis de vous fixer un régime et de vous envoyer, parce que ça, j'imagine que vous ne faites pas la cuisine pour vos clients,
non,
eux la
encore.
Font, et vous recevez votre repas, votre ration, je ne sais pas comment il faut dire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est un business, hein. Chaque année, il y a un nouveau régime, chaque année, il y a des nouveaux principes, mais tout se ressemble hein, depuis les années... Les régimes hyperprotéinés, dissociés, Montignac, Ducamp, tout ça, c'est un peu toujours la même chose. Il y a un phénomène que moi je m'explique pas, sociologiquement parlant, on se l'explique pas trop. C'est cet attrait pour la perte de poids et le régime. Chaque année il sort un nouveau truc et chaque année ça marche. Je pense que si on sortait une pilule qui met ta vie en danger, mais qui te permet de maigrir très vite, plein de gens la prendraient.
Donc... Ah ben, c'est déjà arrivé donc à quelques laboratoires.
Oui, on ne savait pas que ça mettait.
Oui, voilà, on ne savait pas.
Voilà, on ne savait pas.
Il y a quand même quelques laboratoires qui sont retrouvés devant le tribunal pour des condamnations d'ailleurs.
Ouais. C'est donc il y a un gros business autour de ça et puis beaucoup s'engouffrent. Et là, c'est des packages avec des plats alimentaires au rabais. Hein. C'est comme si t'achetais des plats cuisinés tout prêts qui sont pas forcément de bonne qualité, mais comme les quantités sont minimes, le taux calorique est bas, forcément, si tu manges que ça, tu perds du poids. Mais tu peux très bien lécher du poids pour moins, perdre du poids en léchant le mur pour moins cher, quoi. Tu vois? Donc, voilà, c'est du commerce, c'est tout sauf une pratique responsable et surtout liée à la santé, parce que le problème, c'est ça. On peut perdre du gras, mais on peut aussi perdre beaucoup de muscles, beaucoup d'eau. Donc le poids en lui-même ne veut rien dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'on perd, voilà. Et quand on s'affame, on perd du muscle aussi. Et donc c'est une cata.
Quelqu'un qui est en surpoids, pour reprendre un terme aéré, qui va en perdre.
Oui.
Est-ce qu'il va en reprendre ?
C'est possible.
Est-ce que le... Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, mais à Dachau, il n'y avait pas d'obèses.
Oui.
Mais est-ce que le corps a une mémoire ?
Oui.
Est-ce qu'il va essayer de... Si on se relâche, hein, est-ce qu'il va essayer de récupérer ce poids ?
Alors, il y a une mémoire si tu as fait des conneries. C'est-à-dire que si tu fais un régime hyper restrictif, tu perds du muscle, donc ton corps enregistre une problématique de maladie, parce que le seul moyen de perdre des protéines dans l'organisme, c'est quand on est malade. Donc, sauf que là, c'est pas une maladie, c'est un régime. Donc, il va te faire reprendre, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, le rebond pondéral après un régime restrictif. Donc ça, c'est lié à une bêtise, entre guillemets. Si tu fais une prescription alimentaire équilibrée, que tu perds du poids de manière progressive, que tu augmentes ton métabolisme parce que tu fais une bonne activité physique, il y a très peu de chances que tu reprennes. Le seul moyen de reprendre du poids derrière, ça va être si tu retombes dans des anciens travers. Et là, on est sur le comportement alimentaire, pas forcément lié à l'alimentation elle-même. Donc, c'est plus sur la gestion du stress, des angoisses, des émotions. C'est plus sur le côté gestion des compensations, des compulsions que peut se faire la reprise de poids derrière.
Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut absolument bannir ou dont il faut vraiment restreindre l'absorption ?
Le sucre. Le danger ultime, le poison, c'est le sucre. Et en même temps, c'est celui qui est le plus apprécié, c'est celui qui est le plus réconfortant. Mais le sucre, il est 8 fois plus addictif que la cocaïne et l'héroïne. Donc, il va être une véritable drogue pour l'organisme. Et ce qui se passe quand on consomme des sucres rapides, c'est qu'on va avoir des gros pics de sucre qui sont de suite suivis, dans l'heure qui suit, l'heure et demie qui suit, par une hypoglycémie réactionnelle. Et donc, on va avoir des coups de pompe, on va avoir des envies de sucre, on va avoir des besoins de sucre. Donc, plus on consomme du sucre, plus on en a besoin, et plus on a d'insuline dans notre sang qui va activer la lipogénèse, c'est-à-dire qui va fabriquer du gras, et qui va nous fatiguer. Donc, on mange du sucre, on est fatigué, on prend du poids, et on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà. Donc, il faut réellement faire un sevrage, mais le principal aliment catastrophe, et catastrophe parce qu'on en a partout, même dans le jambon blanc, on trouve du sucre. L'industrie agroalimentaire l'a bien compris il y a bien longtemps. Le fléau, c'est le sucre.
Lydia ?
On pourrait justement penser que c'est aussi les féculents, mais donc pourquoi on ne pourrait pas arrêter les féculents aussi ?
Ben parce que le féculent, c'est déjà un sucre lent.
Oui.
En général, si tu l'associes à du gras, une petite huile d'olive ou du beurre et des fibres avec des légumes, l'absorption de ton glucide va être très ralentie. Donc, elle ne va pas être considérée comme un sucre rapide.
Voilà. Ouais, ok, c'est ça la différence.
Voilà, ça c'est la grosse différence. Maintenant, si tu manges qu'une assiette de pâtes un peu trop cuite, une tranche de jambon, ça va être considéré comme un sucre rapide. Voilà, donc il faut toujours mettre des fibres avec ton féculent.
Alors les fibres, on les trouve où ?
Les légumes, les fruits et les céréales si elles sont complètes. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il faut, il faut pas faire d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Donc il faut véritablement un équilibre.
Il faut trouver un équilibre. Après, les excès font partie de la vie. Elle serait triste si tu fais pas un bon resto, un bon week-end.
Oui, mais on peut le faire une fois, mais...
Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de ritualiser les plaisirs pour pouvoir tenir sur le long terme. Et si tu sais que le vendredi ou le samedi, tu as ton apéro avec les potes ou tu réfléchis pas trop à ce que tu manges, si tu sais que le dimanche matin, tu vas dans telle pâtisserie parce que tu adores le Saint-Honoré ou le millefeuille, c'est ton plaisir, toutes les semaines, tu te payes ta petite pâtisserie, ou la personne qui a un attrait pour le sucre et qui peut pas se passer de chocolat, qui va prendre un carré de chocolat à la fin du repas avec son café, si elle est ritualisée et que ça lui empêche de manger une tablette 2 semaines après, c'est parfait. Voilà. C'est trouver
donc
un équilibre.
Pas de diététique punitive.
C'est interdit. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas.
Ça va.
Non, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. Alors après, c'est sûr que tout ça, ça marche si tu manges bien et si tu bouges bien.
Oui,
si tu ne manges pas bien, si tu ne bouges pas bien et qu'en plus, tu fais des écarts, bon, là, c'est catastrophe.
Alors, cette obésité... quand on voit aux États-Unis, il y a quand même un tiers de la population qui est
en
surpoids.
Hein.
Oui,
et
France,
surtout chez les jeunes aussi.
Oui. Alors justement, c'est là que je venais. Ouais. Qu'est-ce qui provoque ce surpoids ? Il y a la mauvaise bouffe, on l'a dit.
Le sucre.
Le sucre, les abus de sucre.
Ouais.
Donc tout ce qui est fast-food.
Tout ce qui est fast-food et surtout boissons énergisantes. Soda.
Voilà, on ne cite pas de nom, je me tourne vers...
Mais moi, je suis au courant, hein. Je me reconnais dans certaines choses qui sont dites.
Je suis conscient que je m'intoxique.
Là, vous avez
exactement.
Vous avez entendu le maître de la technique.
Mais on se retrouve aujourd'hui avec des ados qui ont des problématiques de diabète de type 2 qu'on trouvait que chez les personnes âgées. on se retrouve avec des ados qui ont des foies cirrhotiques, c'est-à-dire qu'ils ont des cirrhoses du foie à cause d'une stéatose hépatique, c'est-à-dire du foie gras qui dégénère. Et tout ça, c'est à cause du sucre. Parce qu'ils vont consommer des canettes de 500 millilitres, 2-3 fois par jour, donc ça fait quand même 1,5 litre de soda hyper sucré. Et donc, on a des charges de sucre qui sont importantes et qui entraînent du surpoids et des problèmes, notamment au niveau du foie et du système digestif. Et après, c'est la sédentarité. On a
alors,
des jeunes
voilà,
qui bougent de moins en moins.
Est-ce que les écrans...
C'est une catastrophe, bien sûr.
En dehors de l'aspect neurologique, hein, on sait combien ça détruit le cerveau et les neurones aussi, hein, qui ne sont plus véritablement en état de marche. Mais pour la santé, c'est
catastrophique la sédentarité aujourd'hui. Mais d'ailleurs, j'ai lu un article récemment, ça m'a fait un peu sourire, malheureusement. J'ai vu que l'armée avait du mal à recruter les jeunes parce qu'ils avaient tous des IMC de surpoids. Et il faut
s'ils font le parcours du combattant tous les jours un peu poussé, ils vont perdre, non?
Ouais, mais pour intégrer l'armée, il faut avoir un IMC en dessous de 30, donc en surpoids mais pas obèse. Et ils ont beaucoup de mal à recruter les jeunes parce que beaucoup sont en surpoids et sédentaires. Ouais.
Alors pourquoi ils vont vers ce type de produit? Est-ce qu'il y a un problème économique aussi qui conduit les gens à manger des produits qui ne sont absolument pas bons pour leur santé?
Alors, pour moi, c'est un faux problème. Mais effectivement, dans la tête des gens... Alors, il y a deux choses. On s'aperçoit que la prévalence de l'obésité est étroitement liée au statut socio-professionnel de la personne. C'est-à-dire que plus la personne est pauvre, plus elle est obèse. Ça, c'est le premier point.
Donc on peut être pauvre et bouger quand même.
Ben, c'est ça. Et puis, on peut faire des choix judicieux aussi. C'est-à-dire que quand tu achètes une purée mousseline et que tu regardes l'étiquette, peut-être que le paquet coûte 2 euros ou 3 euros, ça paraît pas cher, mais c'est du 30 ou 40 euros le kilo de pommes de terre. Alors qu'un vrai kilo de pommes de terre, c'est 80 centimes d'euros. Donc, il y a des produits qui sont ultra transformés, qui coûtent hyper cher en prix au kilo, mais qui sont achetés dans des petites quantités. Donc, c'est des petits prix à l'achat, mais qui, au final, sont pas plus chers que d'acheter des produits frais. Ce qu'il faut après, c'est le transformer nous-mêmes. Acheter des produits ultra transformés, forcément, il y a du sucre, forcément, il y a des mauvaises graisses, et forcément, c'est beaucoup plus cher que d'acheter le produit de base.
Il y a de plus en plus de diabétiques?
Je ne pense pas qu'il y ait de plus en plus de diabétiques. Non. Après, comme il y a de plus en plus de personnes en surpoids, peut-être que la prévalence du diabète va augmenter, puisque le diabète de type 2, c'est le diabète gras qu'on appelle, hein, lié au surpoids, ça devrait augmenter, forcément.
Il y a le diabète aussi, il y a les maladies cardiovasculaires aussi.
Oui, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les maladies rénales, il y a les maladies du système musculo-squelettique, c'est-à-dire toutes les maladies liées à l'arthrose, liées au surpoids. Un kilo de surpoids, c'est 4 kilos de pression sur les articulations. Donc quelqu'un qui toute sa vie a une vingtaine de kilos de surpoids, c'est comme s'il portait un sac à dos de 80 kilos. Donc il va se retrouver à 40-50 ans avec des articulations, j'allais dire, érodées plutôt que prévues, quoi. Donc il y a aussi toute cette problématique.
Donc il y a un vieillissement accéléré.
Accéléré, oui, complètement. Ouais.
Est-ce que aujourd'hui, où est-ce qu'il faut acheter ces produits? Parce que on achète, quand vous allez au supermarché, vous avez quoi? Vous avez de la nourriture industrielle dont on sait qu'elle est bourrée d'additifs, d'émulsifiants, de sucre, de sel. En fait, toutes choses qui, justement, vont vous inciter, un, à acheter, et deux aussi, qui permettent de maintenir le produit, soit de lui donner un aspect attirant et sympathique, soit de le permettre de rester en rayon beaucoup plus longtemps.
Oui.
Donc ça veut dire que même si j'ai de bonnes intentions, j'achète des produits venant, et puis après il y a tous ces produits-là que l'on peut retrouver aussi dans la restauration, soit certains restaurants un peu regardants, soit la restauration de groupe, hein, dans des restaurants d'entreprise ou autres, ou finalement dans des cantines tout simplement,
tout lycée,
collège, etc. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu coincé?
Ben, on est coincé par nos choix, en fait. Dans un supermarché, tu peux quand même avoir des produits qui ne sont pas transformés. Et heureusement, parce que s'il y avait que des produits transformés, ce serait une catastrophe. Mais après, c'est les choix qu'on va faire. Et aujourd'hui, le consommateur se trompe, fait pas forcément de bons choix. Donc, les grandes surfaces nous proposent ce qu'on achète. ce qu'on veut. Tu n'auras pas une pomme qui aura une petite tache parce qu'ils ne vont pas la vendre. Donc, on n'a que des pommes nickel, qui sont calibrées, qui sont travaillées, qui, tu parlais de produits qui vont augmenter la conservation. Il y a des retardateurs ou des produits qui vont accélérer la maturité en fonction de la demande. Donc, toutes les fraises d'Espagne, elles sont gazées, elles sont dans des chambres froides, elles sont gazées.
Oui, et avant, elles ont reçu un tas de produits qui s'écoulent par ils les arrosent avec le goutte-à-goutte, et dans le goutte-à-goutte, ils mettent des produits chimiques.
C'est ça.
Quand elle enseigne donc, d'ailleurs que ceux qui les ramassent ont les mêmes bouffées.
Donc, moi, j'invite les gens à... Après, moi, c'est comme ça que je fais. Et... Alors, c'est vrai que ça peut sembler être un coût, mais on est conditionné par ce qu'on mange. Donc pour moi, le premier budget mensuel dans un foyer, ça doit être l'alimentation. Et malheureusement, on paye tout, et ce qui reste, c'est pour bouffer. Et donc, on va peut-être vers des choix financiers qui nous sont imposés, et du coup, des produits de mauvaise qualité. Mais si on travaille sur du local, si on travaille sur du non transformé, on a déjà évincé 80% des problématiques.
Donc non transformé, local, oui.
Oui.
Il faut éviter tout ce qui est pesticides.
Voilà.
Les PFAS, si on y arrive, hein,
ouais.
ces produits qui vont être conservés dans notre corps et qui vont rester dans la terre, dans les plantes, pendant des dizaines d'années.
C'est pour ça que si on travaille à l'échelle...
On appelle polluants éternels.
Ouais.
Mais ça, tout ça, on ne le voit pas quand on achète un produit.
Non.
Je vois un produit dans un supermarché, donc je me dis, bon, déjà, il me le vend, c'est que c'est un produit qui est comestible.
Qui est censé.
Qui est censé être comestible.
Ouais.
Mais derrière, il a été travaillé, il a été, disons, augmenté, il a été pollué.
C'est pour ça qu'il faut lire les étiquettes. Et ça, personne
ne lit les étiquettes
non,
dans un
peu.
Supermarché.
Alors, il y a les Nutri-Score, là, qui nous indiquent
ouais,
un petit
enfin,
peu.
On voit aussi comment l'industrie, quand même, et les lobbies.
Ça vient de l'industrie.
Oui,
hein,
ça vient de l'industrie.
Il y a l'application Yuka qui est sympa pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur du produit. Et donc, qui nous indique s'il y a des perturbateurs endocriniens, s'il y a des pesticides. Ça, c'est quand même intéressant de scanner avec son téléphone vite fait. Mais je remarque que de plus en plus dans les magasins, ça capte moins. Ça capte pas. c'est bizarre.
Oui.
On a du mal à utiliser certaines applications. Et après, voilà, le premier gage d'apport nutritionnel correct, ça va être du local. Local, on l'entend par 200 km aux alentours du point d'habitation. Hein. Donc, aujourd'hui, en plus, avec l'inflation, on s'aperçoit que c'est pas plus cher que d'aller chez son boucher que d'aller à Intermarché ou Leclerc ou autre. Donc voilà, il faut essayer de faire travailler des gens qui sont passionnés, qui aiment leurs produits. Moi, je vais chez mon boucher, je vais chez mon petit producteur à 3 km de chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir des maraîchers autour de chez moi, qui font du bio, qui font du naturel, parce que bio, c'est pareil, c'est un label.
Est-ce qu'on n'est pas dans le luxe, là? Il faut avoir du temps, de l'énergie. Est-ce que quelqu'un qui bosse 8-9 heures par jour, je pense par exemple à la ménagère moyenne, qui a deux ou trois gosses,
12 heures par jour.
Qui a deux ou trois gosses, est-ce qu'on a le temps, l'énergie, la
bien
compétence
sûr.
Aussi oui. pour arriver à s'y retrouver dans cette jungle?
Oui, bien sûr.
C'est
ça,
possible.
Oui, bien sûr. Moi, je vais faire mes courses le samedi matin ou le dimanche matin. C'est une histoire de facilité, de choix. Oui. Après, la vie fait que on peut être amené à faire des choix de facilité, mais c'est possible. C'est possible de faire différemment.
Le vin, l'alcool.
Ça sert à rien à part pour le plaisir.
Ce qui est déjà
pas mal.
Énorme, hein.
Voilà. Plaisir. Alors si, c'est faux parce qu'il y a quand même des tanins dans le vin rouge qui peuvent être intéressants. Donc, on va dire que un verre de vin par repas, c'est pas une cata. Il faut dire pas tous les jours parce que sinon ça peut relever de pratiques un peu addictives. Mais voilà, le petit verre de vin rouge qui va bien, il fait du bien. Il y a de bons apports. Et puis c'est tout un tissu, j'allais dire régional, culturel. C'est ancestral tout ça. C'est comme le fromage, c'est comme...
Comme la viande, par exemple.
Comme la viande, oui.
Est-ce que l'abus de viande est un problème? On le sait que pour l'environnement, l'élevage...
Alors c'est juste l'élevage intensif qui va être
absolument une
catastrophe pour l'environnement. Mais tu sais, importer du soja, c'est une catastrophe. Faire la culture du soja, ça détruit l'environnement autant que de nourrir des vaches. Pareil, c'est des choix de consommation. Moi, quand j'ai des personnes qui me prônent la diminution de la consommation de viande, mais qui vont acheter des amandes qui viennent du Brésil ou des noix de cajou qui viennent de je sais pas où sur la planète ou des avocats qui viennent. Bon, voilà, il faut être raisonnable et encore une fois, moi, je vais voir mon boucher, j'achète une viande qui vient du Gers, qui vient du Tarn. Je sais qu'ils sont tant dans le champ. Voilà, en général, elles ont une plaque, elles sont primées. C'est des animaux qui mangent de l'herbe. Enfin bon, voilà.
Ça veut dire que le consommateur doit avoir véritablement une démarche de consommateur soucieux de sa personne, de sa santé.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, mais il y a une pression qui est faite sur... moi, je le voyais à Luchon avec les familles d'enfants obèses, qui étaient des familles un petit peu défavorisées. Hein, et une remarque d'une maman avait un peu résumé toute cette problématique-là, quand elle me disait que l'enfant... Enfin, je lui faisais une remarque parce qu'il mangeait énormément de chips, le gamin. À la maison, j'ai dit, mais il peut pas manger tout ça, c'est pas possible. De temps en temps, à l'apéro, pourquoi pas. Et la maman m'a dit, oui, mais c'est ce qu'il voit à la télé, et comme je peux lui acheter, parce que c'est pas cher, il a l'impression d'être normal. Et donc...
Oui, ça nous emmène sur des problèmes de civilisation, plus
voilà.
Simple.
Voilà, donc, comme ce sont des gens qui ont très peu de revenus ou qui ont une catégorie socio-professionnelle très basse et qui ont du mal à finir les mois... Bon, peut-être que les loisirs, peut-être que les vêtements, peut-être que les achats sont pas à hauteur de ce que les copains peuvent avoir à l'école. Par contre, de manger quelque chose qu'on voit à la pub, ça peut être gratifiant. Et c'est là la catastrophe. C'est qu'on va avoir une identification, tu vois, liée à la consommation, quoi. Mais ça, c'est le marketing, quoi.
Il y a une hérédité dans l'obésité, parce qu'on voit souvent des parents gros, les enfants le sont aussi.
Ouais, parce que, alors, il y a une hérédité dans l'obésité, il y a une hérédité sur le métabolisme, il y a une hérédité sur les maladies, mais après, il y a surtout une passation d'habitudes alimentaires. Donc, si les parents sont gros, c'est pas pour rien, c'est qu'ils élèvent pas leur enfant dans une alimentation équilibrée et ou dans une activité physique régulière, donc on a des enfants qui vont être habitués à avoir une alimentation pas forcément équilibrée et pas bouger.
Vous nous avez dit que vous étiez un ancien sportif, peut-être encore d'ailleurs.
Oui, je fais toujours.
Vous suivez des sportifs ?
Oui, beaucoup.
Oui, donc oui. Là, il faut adapter leur régime à leur pratique.
Ouais. J'ai des gens qui viennent me voir pour beaucoup. J'ai beaucoup d'Ironman en ce moment. C'est des triathlons de l'extrême là. Beaucoup de personnes qui font des semi-marathons, des marathons, et après beaucoup de boxeurs aussi, parce que moi je suis du milieu des sports de combat.
Ça se voit. Ouais. Mathis.
En parlant de sport de combat, il y a un sport qui fait parler énormément en ce moment, c'est le MMA. Ouais. On entend parler de partout. Ouais. Les salles, elles sont de plus en plus bondées. Ouais. Et dans le MMA, il y a une pratique qui se fait et qui est courante, c'est le cutting.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous parler des dangers de cette pratique ?
Alors, le cutting, il est fait pas que dans le MMA. Il est fait
MMA, d'ailleurs, on va expliquer ce que c'est.
Martial art, ça veut dire les arts martiaux mixtes. Ouais, j'y étais hier soir, tu vois. Voilà. Mais alors, le cutting, il se fait dans tous les sports de combat où il y a des catégories de poids. Le cutting, c'est surtout quand il y a une compétition, donc ça se fait chez les professionnels. Et ça se fait pas dans le club lambda où tu vas faire un combat, voilà. Mais chez les professionnels, oui, ça se pratique. Pourquoi ? Parce que le poids en combat est très important. C'est-à-dire qu'au bout du point, s'il y a 5-6 kilos de différence entre deux combattants, ben tu vas taper plus fort. Donc l'objectif, si tu es en catégorie moins de 70 kilos, c'est d'arriver le jour de la pesée à moins de 70 kilos et de te réhydrater très vite derrière. Et d'arriver le jour du combat deux jours après à 75 kilos par exemple. Donc c'est des gens qui vont, c'est des combattants qui vont être aux alentours des 75-76 kilos, qui vont perdre énormément d'eau juste avant la pesée pour arriver au poids de la catégorie et avec la réhydratation derrière, arriver le jour du combat plus lourd pour pouvoir taper plus fort. Il y a beaucoup de risques sur la santé, et il y a beaucoup de risques sur perdre les bénéfices de toute une préparation physique. Moi, j'ai vu des gars qui ont eu un cutting trop important et qui n'ont pas pu récupérer comme il fallait, et le jour du combat, ils étaient à la rue, parce qu'ils étaient cuits, tu vois. Donc, il y a beaucoup de... C'est compliqué, le cutting, c'est compliqué. Ouais. Mais ça se fait surtout chez les pros, ça se fait pas chez les amateurs, ou très peu chez les amateurs, voilà.
On fait une deuxième pause musicale. Alors moi, je vous emmène en Italie. Hein. Ah. On va parler de la papa al pomodoro. Hein, spécialité culinaire italienne qui est issue essentiellement de la cuisine toscane, chantée par Rita Pavone.
faccio buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, a po 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 pomodoro, a viva la papa papa, che un capo po 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 lavoro, a viva poniamo detto fatto la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa con il po 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 pomodoro, a viva la pappa pappa che un capo po 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 lavoro, a viva la pappa 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 col po po pomodoro, viva la pappa 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 col po 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 pomodoro.
Et voilà, nous retrouvons Jean-Philippe Carrasco après Nina Pavone. Elle a un grand dynamisme, hein, c'est un peu l'Arnicordi italienne. Et c'était la bande-son d'une série qui était sortie en Italie. C'est assez ancien, dans les années 65. Vous n'étiez pas né, Jean-Philippe, ni les autres ici. Il n'y a que moi qui étais né, mon Dieu, mon Dieu. Alors, quand vous n'êtes pas à votre cabinet, quand vous ne conseillez pas le genre de maigrir et leur expliquer comment il faut qu'ils équilibrent un peu leur nourriture, leur vie. Qu'est-ce que vous faites? Du sport?
Oui.
Vous nous l'avez dit? Toujours de la boxe?
Oui. En ce moment, c'est du MMA. Donc, on fait un peu boxe, pieds-poings, sol, combat au sol, lutte, tout ça. Et puis après, moi, je suis surfeur. Donc, j'aime bien surfer. Je fais beaucoup de paddle.
Vous devez bien tenir la planche, hein, parce qu'une fois que vous êtes dessus...
Ouais. Et donc là, je rame beaucoup.
Quel est le plaisir sur un paddle, c'est-à-dire de ramer debout? J'ai jamais trop bien compris. Moi, je suis un kayakiste, j'en ai fait un peu dans toutes les conditions. Alors le paddle, j'ai jamais trop compris.
Eh ben, c'est comme le kayak, sauf que t'es debout.
Oui, voilà, c'est toute la différence. Moi, je suis un feignant, je préfère être assis.
Voilà, donc ça fait travailler un peu plus le gainage et puis la proprioception. Mais c'est surtout que du coup, tu vois ce qu'il y a au fond de l'eau. Tu vois beaucoup mieux l'environnement et c'est super agréable. Et tu vois, moi, tous les dimanches avec mon pote, on va faire une quinzaine de bornes sur la Garonne.
Et vous voyez ce qu'il y a au fond de l'eau, parce que
quand l'eau est claire,
vu la couleur de la Garonne...
Elle est très souvent très claire.
Oui, elle est...
Et contrairement à ce qu'on pense, c'est un des fleuves les moins pollués de France.
Donc il faut faire les épreuves de natation des Jeux Olympiques, non pas dans la Seine, mais dans la Garonne.
La Garonne, ouais. Il faut choisir le moment, mais en juillet, en général, c'est pas bon. Hein.
Une œuvre d'art qui vous a marqué? Vous savez que je pose toujours un certain nombre de questions rituelles à mon invité.
Alors, je
crois que vous êtes très cinéphile, non?
Ouais, voilà. Moi, j'aime énormément les films. J'en consomme énormément. J'ai du mal à répondre à cette question parce que, en fonction de, c'est un peu comme les bouquins, c'est en fonction de l'humeur, c'est en fonction du moment, c'est en fonction de l'envie. J'ai des dizaines et des dizaines d'œuvres qui peuvent me marquer. Voilà. Après, le plus marquant, moi, ça a été quand même le cinéma de Tarantino, les premiers films de Tarantino qui m'ont beaucoup marqué.
Le moment ou la journée particulière qui, dans votre vie, restera toujours présent dans votre esprit?
Alors après la naissance de mes enfants et la rencontre avec ma femme, bien sûr.
Avant, hein, la rencontre avec votre femme, avant la naissance des enfants.
Ah ouais.
J'imagine.
Hein. Non, moi, ce qui me parle plus professionnellement, parce qu'on est dans le cadre un peu de la diététique, ça a été le jour où j'ai visité mon cabinet. Je devais partir en vacances à Amsterdam avec mon meilleur pote. Et je visitais le cabinet et je partais le soir même. Et à ma visite du cabinet... la personne m'a dit, demain j'ai une visite, mais la personne est très intéressée, elle va le prendre demain, il faut me l'arrêter aujourd'hui. Et donc, j'ai annulé mes vacances au dernier moment, et les sous des vacances m'ont servi à arrêter mon cabinet, et j'y suis resté 17 ans dedans.
Ça valait le coup quand même.
Ça valait le coup, voilà. Et ça, c'est un jour marquant dans ma vie.
La personne qui vous a marqué le plus, qui vous a, entre guillemets, qui vous a fait... Peut-être n'y en a-t-il pas d'ailleurs?
Non, il n'y en a pas. Il y en a plusieurs.
Vous n'avez pas eu de mentor ou de...
Non, je m'inspire des gens qui réussissent. J'aime les gens qui réussissent. Y a énormément d'artistes qui m'ont inspiré, notamment des acteurs, énormément de sportifs, énormément de d'hommes d'affaires, voilà, qui j'aime les expériences de vie, je suis curieux de tout, donc je vais être aussi bien charmé par un Michael Jordan que Mike Tyson que Bernard Tapie, voilà, je vais essayer de m'inspirer des choses qui me parlent et que je peux moi m'appliquer ou des conseils que je vais pouvoir tester, et donc il y a plusieurs personnes, et puis ça évolue au fur et à mesure de mon existence aussi, quoi.
Vous avez une profession libérale, vous avez dit je travaille 10 heures, peut-être plus d'ailleurs, oui, par jour. Vous voyez combien de gens en moyenne?
Entre 15 et 20 par jour en moyenne.
Donc j'imagine que le soir vous êtes totalement épuisé.
Un petit peu.
Alors vous avez quand même le temps d'avoir une vie, vous avez des enfants, oui, avez une famille, vous avez le temps de vous consacrer à eux?
Oui, bien sûr. Ben après, c'est ça, c'est un équilibre. Hein. C'est un équilibre de vie, c'est une organisation avec ma femme qui est aussi un libéral. Voilà, je travaille pour essayer de pas d'avoir mon vendredi de libre. Ma femme, c'est le mercredi. On a une organisation qui fait que on voit beaucoup les enfants. Et après, comme on a besoin et on pratique pas mal d'activités physiques, on partage énormément de choses le week-end ensemble. C'est sûr que les soirées passent vite, mais
le week-end on est là. Vous reste-t-il, et j'annonce par là notre traditionnelle séquence de fin, la séquence littéraire, vous reste-t-il du temps pour lire?
Très peu.
Parce qu'il faut quand même avoir un peu de fraîcheur. Hein. Si on s'endort le soir sur la page, c'est pas bon.
Non, c'est pour ça que j'écoute beaucoup de livres audio dans mes trajets de voiture.
Oui.
Ouais, énormément. Je lis en moyenne au moins 2 bouquins par mois grâce aux livres audio parce que le problème, il est là, c'est qu'au bout de 2-3 pages, je m'endors épuisé et donc j'ai du mal à lire. Par contre, j'optimise mes 45 minutes de trajet quotidien en écoutant des livres audio. Et voilà, donc pour l'instant, c'est ma manière à moi de lire.
Alors, je vous avais dit, parlez-nous d'un livre, je vous l'avais demandé.
Oui.
Vous m'avez parlé du Vieil Homme et la Mer, mais vous m'avez parlé d'un autre aussi, hors micro. Alors, commençons par le Vieil Homme et la Mer. Pourquoi ce choix?
C'est le livre qui m'a le plus marqué. Encore une histoire de combat, sûrement.
On va rappeler Ernest Hemingway, un grand amateur également de boxe. Hein.
C'est ça.
Il était à Cuba, c'est en 1951.
C'est ça. Et l'histoire de ce vieil homme qui... l'histoire du combat incessant avec l'animal, le fait qu'il se taille les mains mais qu'il résiste. Et puis cette vision de la vie où tu vas chercher des ressources inespérées au fond de toi-même pour arriver à ton objectif. Et puis, tout disparaît parce que quand ils rentrent, les requins ont tout bouffé. Donc, c'est un petit peu nul. C'est une philosophie de vie qui est intéressante pour moi.
C'est votre truc, ça, le combat, la réussite.
Ouais. Ça m'anime. Je sais pas
pourquoi. Votre moteur.
Ouais.
Et vous m'avez parlé de notre livre, alors celui-là qui est beaucoup plus récent, de Le Noir, le directeur, je crois, du Philosophie Magazine, me semble-t-il, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et lui, c'est un livre d'une toute autre facture.
Oui, c'est Du Bonheur, un voyage philosophique. C'est un bouquin que, du coup, j'écoute très régulièrement. Et qui m'aide à passer les moments difficiles de ma vie. C'est un voyage philosophique au travers du temps, sur tout ce qui a été dit ou écrit sur le bonheur dans l'histoire de l'humanité, et de se rendre compte que il y a 2000 ans, l'être humain avait les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Ça nous fait relativiser, ça nous fait remettre à la place, et c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Comme le résumé de l'éthique de Spinoza par Frédéric Lenoir aussi, qui est une merveille, qui m'a fait connaître Spinoza, parce que l'éthique, c'est très très difficile à lire.
C'est un peu compliqué, surtout le soir après une journée.
Ouais, c'est impossible.
Après avoir vu 25 clients, je crois qu'on va pas très loin. Hein.
Voilà, je vous conseille le résumé de Lenoir qui est extraordinaire.
Alors moi, je vais vous parler de deux livres, mais on va revenir dans votre domaine, dans la gastronomie, finalement. D'abord, Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, il y a eu dernièrement sur Arte, mais vous savez qu'Arte, c'est comme chez nous, un peu des podcasts, donc vous pouvez revenir dessus. Ça s'appelle Une star d'envergure internationale. C'est un homme humaniste et visionnaire. Hein. Escoffier, ça a été l'homme qui a complètement révolutionné la gastronomie. Après son passage, elle n'a plus du tout été ce qu'elle était. Donc, il y a un très très beau film sur Arte, Auguste Escoffier. Ses dates, c'est 1846, mort en 1935, mais c'est véritablement un homme qui a complètement renouvelé la cuisine française. Vous rentrez dans une cuisine de restaurant, peut-être pas le boui-boui du coin, mais un restaurant un peu établi avec des cuisiniers qui ont fait quelques études, et ils vont vous parler d'Escoffier, et ils ont véritablement lu les bouquins d'Escoffier, et notamment, je crois que ça s'appelle « Souvenirs culinaires », tout le monde, voilà, il faut lire Escoffier. Ouais. Et j'ai appris d'ailleurs, en regardant le film d'Arte, qu'il avait rencontré un monsieur dont je connaissais l'établissement, mais je ne savais pas qu'il avait été créé par un homme qui existait, c'est César Ritz. Le fameux Ritz, eh bien, c'était un Suisse, et ils ont fait équipe tous les deux, et ils ont fait des établissements, des palaces. Ils en ont fait un peu partout, Monaco, Londres, New York. Ils ont régné un peu sur ce domaine-là pendant très très longtemps. Et Arthur Escoffier, Auguste Escoffier, décidément, je tiens absolument à le rebaptiser. Donc Auguste Escoffier est connu de tous les cuisiniers, et je vous conseille sa lecture parce qu'il a eu une vie. C'est un homme, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a toujours tout réussi, ce qui est quand même rare dans une vie. Vous qui aimez les hommes qui ont réussi, ouais, alors lui, il s'est jamais planté sur rien.
Ça, c'est bizarre.
Il a absolument tout. Ouais, oui, c'est pour ça que moi, ça me
manque. Tous ceux qui réussissent, ils se plantent bien.
Et oui, lui, il a pas. On apprend, on dit souvent de ses échecs. Ben, lui, il n'a appris que de ses réussites parce qu'il a tout réussi de A à Z. Il a complètement modifié, et dans un bon sens. Il a allégé la cuisine, il a sorti des recettes qui sont toujours appliquées aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de par le monde des associations Escoffier. C'est véritablement un homme qui a terriblement marqué son domaine. Et puis un autre livre, un petit livre, s'appelle « Petit éloge de la gourmandise ». C'est Nicolas d'Estienne-Dorve qui est un écrivain. Et un petit livre assez jouissif où il va vous raconter ses souvenirs d'enfant, parce qu'il a été éduqué, je pense, par son père, qu'il a amené souvent dans les restaurants. Là, il va vous parler de l'andouillette, du nèfle, du sablé à la confiture, de la figue, les choses sur la figue, les vins du Rhône, et les bonbons Haribo aussi, la tête de veau et les Kinder. Bon, enfin, voilà, c'est un livre tout à fait extraordinaire. Il vous met l'eau à la bouche. Il est très jouissif parce qu'on sent qu'il a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et c'est un grand moment de bonheur quand on aime la bonne bouffe. Il faut rappeler les choses comme elles sont. Et puis également, tiens, une date à noter, le 20 juin, à l'église du Jésus à Toulouse. Vous aurez, après l'Occitanie baroque des pénitents noirs, ça c'était en 2017, et les grands motets Joseph Valette de Montigny en 2021, bien l'ensemble Antiphona poursuit son exploration du patrimoine musical languedocien des 17e et 18e siècles. C'est tout à fait remarquable, et vous allez avoir trois grands motets, donc le jeudi 20 juin, à l'église de Jésus, je crois qu'elle est du côté du palais de justice, me semble-t-il, mais à vérifier. Mais enfin, bon, marquez la date et allez taper sur votre écran. On disait tout à l'heure du mal des écrans, mais ils peuvent aussi servir.
C'est de bons outils.
Voilà, et vous verrez, les attaches méridionales de ces musiciens, leur lien avec les états du Languedoc, c'est tout à fait superbe. Donc peut-être une bonne soirée en perspective. On est arrivé au bout de notre heure de discussion, d'échange. Merci Jean-Philippe Carrasco d'être venu à ce micro.
Merci de m'avoir reçu.
Eh bien, écoutez, vous serez les bienvenus, parce que on est loin d'avoir quand même défloré tout le sujet.
Il y a beaucoup de choses à dire encore.
On l'a effleuré, mais on les dira, je vous le promets. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique, mais aussi parfois au micro, parce qu'il peut parler, vous l'avez entendu, notre technicien Léo Touroult, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous ses petits camarades podcast sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.